Et avec Léa Salamé, nous vous proposons ce matin un grand entretien consacré aux universités, aux facs, aux établissements d'enseignement supérieur avec l'épidémie de Covid. Cela fait 10 mois maintenant que les étudiants suivent l'essentiel de leurs cours dans leur chambre, derrière leur écran d'ordinateur et pas sur les bancs des amphithéâtres. Les facs ont rouvert en octobre pour être refermés en novembre avec le deuxième confinement. Et ce lundi, seule une poignée, quelques étudiants ciblés, fragiles, ont pu reprendre les cours en tout petit groupe.
Oui, pour les autres, c'est la grande incertitude et dans les familles, la grande inquiétude. On voulait consacrer, on tenait ce matin à consacrer le grand entretien à ce que le Premier ministre lui-même appelle une situation très difficile pour les étudiants. Pour en parler, sont au micro d'Inter ce matin Emmanuel Hadj. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en sciences politiques à Nanterre.
Et avec nous en studio à Paris, Emmanuel Tounon, Tounon, de la rage, c'est pas exactement...
C'est un nom d'origine espagnole, mais
Tounon,
c'est...
Tounon. Tounon de Lara. Vous êtes président, nom magnifique, vous êtes président de la conférence des présidents d'université, ce qu'on appelle la CPU, et président de l'université de Bordeaux.
On est aussi en duplex des studios de France Bleu Nord avec Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille, membre du bureau de la conférence des grandes écoles. Vous copilotez également le suivi de la réforme du bac et du lycée.
Et enfin, en studio également à Paris, Dominique Montchablon, psychiatre, bonjour.
Bonjour.
Chef de service à la Fondation Santé des étudiants de France. Commençons avec vous, Emmanuel Hadj. Dites-nous, tout simplement, pour commencer, à quoi ressemble votre vie depuis le mois d'octobre ?
Depuis le mois d'octobre, je pense que ma vie est assez similaire d'un matin à un autre. C'est un peu du coup la même chose tous les matins. Sauf ce matin, oui, pour le coup. Mais du coup, c'est un réveil avec comme premier réflexe, allumer son ordinateur pour se connecter à Zoom, Microsoft Teams, etc. pour pouvoir suivre les cours en ligne. Moi, j'ai pas quitté ma chambre universitaire pour suivre justement mes cours en ligne à peu près correctement, pour avoir une connexion internet qui ne bug pas tous les 5 minutes et pouvoir suivre du coup mes cours tout simplement correctement.
Vous êtes en chambre universitaire à la cité universitaire. Est-ce que vous diriez que ce deuxième confinement est pire que le premier?
Oui, très clairement, oui. Parce que le premier, ça a été très dur, parce que ça a été assez soudain, et on s'est retrouvés confinés à la maison, très clairement, sans possibilité de voir nos professeurs, etc., mais un peu vraiment à la va-vite. Là, le deuxième, on s'y attendait un peu. Par contre, il n'y a pas forcément eu d'amélioration par rapport au premier, et je pense que c'est ça qui... nous fatigue le plus, mais fatigue moi personnellement le plus sur tout ce qui est cours en ligne, ne faites pas avoir de vie sociale.
C'est ça ce qui pèse le plus, l'absence de vie sociale, la solitude, mais aussi les difficultés financières, le fait que vous ne pouvez pas travailler à côté de la fac, fini les petits jobs.
C'est ça. Donc moi personnellement, j'avais trouvé un emploi au niveau de la Tour Eiffel en job étudiant, en contrat étudiant. C'était acté, etc. J'avais été embauchée, mais vu que du coup, avec le confinement, etc., les musées sont fermés et n'ont pas réouvert, même avec le déconfinement actuel. Je me retrouve sans job étudiant pour pouvoir du coup financer ma vie au quotidien.
Et donc c'est quoi? C'est vos parents qui aident?
Oui, voilà, c'est ça. Donc je pense que comme un grand nombre d'étudiants, moi je suis pas boursière actuellement, donc j'ai pas eu toutes les aides du gouvernement, ni de bourse, ni quoi que ce soit. Donc je suis obligée de compter sur l'aide de mes parents pour pouvoir financer ma vie quotidienne.
Emmanuel Tounon de Lara, je rappelle que vous êtes président de la conférence des présidents d'université. Plusieurs présidents d'université ont sonné l'alarme dans une tribune en novembre, dont vous, la fermeture des universités est une véritable bombe à retardement social et humaine, était écrit dans cette tribune. Ils appelaient à reprendre les cours au plus vite en présentiel. Depuis novembre, diriez-vous que la situation s'est encore dégradée? Quel état des lieux faites-vous? Quelle remontée avez-vous? Comment, pour être clair, comment vont les étudiants aujourd'hui en France?
Écoutez, je pense que les étudiants vont mal. Je pense effectivement, comme ça vient d'être dit, que ce deuxième confinement est peut-être plus difficile que le premier. Alors évidemment, c'est difficile d'avoir une photographie uniforme, globale, parce que il y a des inégalités dans cette situation. Les étudiants de première année, qui d'habitude ont une première mise en situation à l'université. Bien sûr, ils ont des cours, mais ils ont besoin des rencontres, ils ont besoin de s'entraider, ils ont besoin de travailler à la bibliothèque en petits groupes, ils ont besoin de préparer des enseignements dirigés.
D'apprendre l'université.
D'apprendre. Tout ça,
c'est différent du lycée.
Ça a disparu. Ouais. Et on a des étudiants qui sont effectivement depuis maintenant 8 mois, 10 mois, devant des écrans. Et ça, c'est une situation qui nous montre dans les enquêtes de santé mentale, où on a un tiers des étudiants qui ont des signes de dépression, qui ont des idées noires, qui ont un impact réel sur leur santé mentale. Et ça, c'est un sujet de préoccupation majeur pour tous les présidents d'université.
Alors précisément, Dominique Monchablon, je rappelle que vous êtes psychiatre. Vous estimez que les consultations des étudiants ont été multipliées par 4 avec le confinement, et vous dites que le choc psychotraumatique de l'épidémie de Covid, des facs fermés, des étudiants confinés, est similaire aux attentats du Bataclan. La comparaison est terrible, expliquez-la nous.
Nous avons perçu le même effet psychologique chez nos étudiants, mais également chez les enseignants. On ne parle pas beaucoup du malaise des enseignants et je dirais bien sûr, le bien-être des étudiants est aussi lié aux conditions environnementales immédiates, de proximité environnementale et sociale. Cette crise sanitaire a été un psychotrauma collectif avec l'effet à la fois de mal-être global chez l'ensemble des étudiants, bien sûr, de la même façon que la population générale, mais aussi et surtout la révélation de traumatismes antérieurs et de vulnérabilités antérieures.
C'est-à-dire?
Notamment, par exemple, dans le contexte des situations de séparation, de deuil, de perte. Toutes les situations de perte ont été, même largement antérieures dans l'enfance par exemple, ont été réactivées à l'occasion de cette crise sanitaire qui réactive l'angoisse de mort, bien sûr, et l'angoisse de perte. Voilà. Donc ça, ça a été un élément très important.
Donc les étudiants plus fragilisés par des événements antérieurs, vous les avez vus souffrir davantage?
Absolument. Donc ce sont ces étudiants-là pour lesquels il faut être particulièrement vigilant, avec des signaux d'alarme de l'ordre de la souffrance psychologique, souffrance plutôt anxieuse ou dépressive. On a bien vu que pour ce premier confinement, c'était la souffrance anxieuse qui était au premier plan. Pour ce deuxième confinement avec l'effet de sommation, c'est la souffrance dépressive, comme le décrit Mademoiselle, avec la démotivation, la désorganisation de la journée, la perte de motivation progressive, même pour des étudiants très engagés, liés essentiellement quand même à la perte du lien social que nous avons tous souligné.
Donc on passe de l'angoisse du premier confinement à des vrais états de dépression dans le deuxième confinement. Et vous nous disiez en préparant cette émission que, en gros, les apéros Zoom, c'était cool, c'était sympa au premier confinement, là ça devient carrément glauque. Je trouve que cette phrase veut dire beaucoup.
Oui, c'est ça. Enfin, du coup, le premier confinement, c'était un peu, entre guillemets, une expérience. Donc c'était ultra angoissant de se retrouver. En plus, c'était en plein été, ne pas pouvoir sortir, rester à la maison, etc. Donc on trouve des solutions pour justement créer ce lien social qu'on a perdu, où je voyais plus mes camarades de classe, je voyais plus mes amis, etc. Donc c'est compliqué. Donc on fait ces apéros Skype, histoire de pouvoir discuter avec quelqu'un. Mais maintenant, en fait, juste se retrouver devant un ordinateur et passer en fait sa journée littéralement devant un ordinateur, donc avoir ses professeurs le matin sur Zoom et l'après-midi avoir ses amis sur une autre plateforme, c'est clairement en fait, des fois on éteint et on se dit, mais est-ce que je suis un robot ou un être humain?
Vous êtes militante à l'UNEF, ça se passe comment le militantisme dans cette période, idem par Zoom ou pas du tout?
C'est un peu des deux finalement, où il y a du Zoom, mais on essaye aussi au mieux de toujours créer un peu de lien social.
De Paris, on file à Lille, de la faculté aux grandes écoles. Pierre Mathiot, vous dirigez Sciences Po Lille. La situation dans cet établissement est-elle aussi préoccupante, ou vos étudiants sont-ils plus protégés, plus privilégiés?
Écoutez, non, je partage ce qui vient d'être dit, évidemment. Peut-être que la différence dans les grandes écoles, c'est que nous avons la chance d'avoir moins d'élèves à gérer, et peut-être la possibilité de les suivre de manière peut-être un peu plus individuelle que dans les grands établissements, dans les grandes universités, où il y a évidemment beaucoup plus d'étudiants et un risque d'anomie qui est plus important. Mais évidemment nos étudiants souffrent des mêmes symptômes qui viennent d'être évoqués. Alors j'ajouterais à la liste, si je puis me permettre, d'abord le fait qu'on avait quand même repris au mois de septembre, en septembre et en octobre, et je dis bien depuis début septembre, parce puisque Monsieur de Morand, vous avez dit octobre, mais les universités reprennent ou les écoles beaucoup plus tôt. Donc on avait pratiquement eu 2 mois à peu près de cursus, on va dire normal, avec quand même des cours à distance, mais beaucoup de cours présentiels avec demi-jauge, respect des gestes barrières, etc., etc. Donc les élèves étaient revenus, avaient commencé leur année ou étaient arrivés, notamment pour les premières années qui sortaient d'un bac qu'ils n'ont pas passé également. Donc bon, et puis il y a eu à un moment donné, hop, un nouveau confinement et donc le sentiment de retomber en quelque sorte en arrière. Ça c'est la première difficulté. Et la deuxième, quand même, qu'on partage toutes et tous, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que le plus compliqué par rapport au premier confinement, c'est que le 12 ou le 14 mai, ça avait été annoncé quand même longtemps à l'avance, ça s'est terminé, et en plus les années académiques à la mi-mai étaient terminées, donc c'était fini. Là, d'un côté, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre à peu près normalement, et on ne sait pas si on reprend normalement, si quelques jours après, on va devoir à nouveau suspendre le retour en présentiel, et puis on est en plein milieu de l'année, donc ça veut dire que pour les élèves, là, on est au mois de janvier, le fait qu'ils se disent peut-être que jusqu'au mois de mai, on ne va pas revenir du tout en présentiel, donc on va avoir quasiment une année complète à distance, ça rajoute. Et je termine sur les enseignants, votre invité l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier aussi que enseigner devant un écran où tous les élèves en fait ont coupé leur caméra pour que la bande passante puisse fonctionner et que l'enseignant puisse faire cours, c'est quand même assez baroque, hein. Vous avez personne devant vous, vous êtes chez vous, vous faites un cours, les élèves, vous savez à la limite même pas s'ils sont encore en train de vous écouter, donc voilà, il y a des difficultés voire des traumas du côté des élèves. Il y a aussi pas mal de difficultés du côté de nos collègues enseignants-chercheurs.
Question à vous, Manuel Thunon de Lara, mais aussi à vous, Pierre Mathieu, mais je commence à Paris. Comment vous gérez, comment vous organisez cette détresse à la fois des étudiants et des enseignants? Qu'est-ce que vous faites concrètement au jour le jour?
Alors, écoutez, les universités, d'ailleurs, elles ont fait preuve d'une fantastique adaptation hein, dans le premier confinement. Et il faut se rendre compte que l'hybridation, l'enseignement à distance n'était pas présent dans ces universités. Donc, il y a un engagement formidable des enseignants-chercheurs. Je pense qu'il y a une véritable accélération de la façon de pouvoir enseigner à distance. Mais cela ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des étudiants en présentiel qui passent des examens. Là, aujourd'hui, ils passent encore beaucoup les examens. Oui. On a des étudiants qui viennent en présentiel sur les travaux pratiques, tout ce qui ne peut pas être fait à distance. Et puis, le reste est à distance. Nous, ce pourquoi on milite, c'est pour qu'il y ait le plus vite possible, dès que la situation sanitaire le permet, un deuxième semestre qui permette de sauver l'année. Oui. Et ça, la préoccupation de tous les chefs d'établissement, c'est le deuxième semestre. Et ça, évidemment, ça dépend de la situation sanitaire, mais aujourd'hui, les dispositifs d'accompagnement, alors les services de santé universitaires font aussi un travail qui est remarquable.
Ces structures sont-elles suffisantes, Dominique Manchablon, ou pas, sur le versant psychiatrique?
Ces structures sont largement insuffisantes. Les structures de soins dédiées aux étudiants, à proprement parler, sont largement insuffisantes aujourd'hui. J'insiste sur le fait que la souffrance psychologique des étudiants n'est pas nouvelle, elle n'apparaît pas seulement avec le Covid, elle est mise en lumière aujourd'hui et on s'en réjouit. Mais elle est largement antérieure à cela, comme effectivement l'a montré des événements très douloureux, des tentatives des suicides, l'immolation de cet étudiant qui a mis en lumière cette détresse psychologique d'étudiants confrontés à des cumuls de facteurs de stress. C'est la spécificité des étudiants. Ils ont un cumul de facteurs de stress, insécurité académique, économique.
Un ou une étudiante qui se sent mal et veut en parler à un spécialiste peut le faire en combien de temps? Faut attendre combien?
Alors, l'accès au bureau d'aide psychologique universitaire en temps habituel hors Covid peut prendre plusieurs mois. Pour un jeune en détresse psychologique qui veut commencer une psychothérapie.
Et aujourd'hui ?
Plusieurs mois, alors que la mobilité étudiante et l'échéancier étudiant est ultra rapide. Il faut être ultra réactif.
Situation très hétérogène en France. Il y a des services bien équipés. Il y en a d'autres qui vivent vraiment avec une infirmière, une assistante sociale. Je crois qu'une des grandes leçons, c'est l'encadrement de la santé des étudiants, même hors période de crise. Mmh. On pense que la santé mentale est un problème qui voit le jour aujourd'hui, mais en fait il existe à la base, et je suis d'accord avec la nécessité de cet encadrement.
Emmanuel Hadj, est-ce qu'on vous a proposé une aide psychologique? Est-ce que vous l'avez acceptée?
Proposer directement, non. Vu que moi, j'ai la chance, entre guillemets, pour les étudiants de vivre en cité universitaire, j'ai pu voir du coup les affiches des dispositifs qui existent. J'ai fait moi-même la démarche de m'inscrire. Par contre, j'ai reçu du coup un mail me disant que mon dossier avait bien été pris en compte, etc. Ça fait plus de 2 mois maintenant et j'ai toujours jamais été recontactée pour
voir
pouvoir
un psy.
Consulter n'importe qui. Pour essayer de discuter de la situation.
Ouais, on file au standard d'Inter, beaucoup de questions sur l'application et au 01 45 24 7000. Bonjour Rose.
Bonjour.
Professeur d'université.
Oui, tout à fait, à Angers.
À Angers, nous vous écoutons.
Eh bien, je confirme tout à fait ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que je suis connectée toute la journée devant un ordinateur vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire je n'ai aucun visuel, je partage mes documents, puisqu'en histoire de l'art, bien sûr, on travaille avec des documents. Je ne vois pas mes étudiants et j'ai l'impression de faire autant de pédagogie que de social, que de je suis assistante sociale, psychologue et enseignante actuellement. Ce n'est pas mon rôle, mais chaque enseignant fait au mieux pour essayer de, bah surtout de ne pas perdre nos étudiants, de garder leur motivation, d'être à l'écoute, d'être un soutien pour eux. Et c'est extrêmement éprouvant pour les enseignants également.
Merci Rose pour ce témoignage et la description de ce qu'est votre vie de professeur d'université aussi depuis l'épidémie de Covid. Oui. Manuel Tounion de Lara, président de la conférence des présidents d'université de la CPU, comment réagissez-vous à ce témoignage?
Je réagis deux remarques. Un, les enseignants-chercheurs, les enseignants jouent ce rôle-là. C'est un rôle crucial parce que c'est l'accroche qu'ils ont avec les étudiants. Les équipes pédagogiques, certes, il y a l'encadrement universitaire, mais c'est eux. Et ça, c'est un véritable défi. Et ensuite, ce que cela démontre, c'est que, surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales, il faut qu'on revienne dans une relation physique inter-individuelle pour pouvoir prendre en charge l'enseignement. C'est artificiel de le faire par écran interposé, et ça, on touche aux limites aujourd'hui de l'exercice.
Sur le témoignage de Rose Dominique Monchablon, puis Pierre Mathieu à Lille, vous vouliez dire un mot ?
Le téléenseignement montre ses limites, et évidemment, l'enseignement n'est pas strictement horizontal, vertical, il est également horizontal. C'est-à-dire que le jeune s'engage dans cette communauté universitaire, avec des figures charismatiques très fortes que sont les enseignants, avec une identification à ces enseignants qui vont parler de leur futur métier. C'est un enseignement de chair et d'os. Dans une communauté universitaire, c'est-à-dire dans un groupe, un amphithéâtre ou un petit groupe de TD, d'étudiants qui vont réévaluer en permanence, de manière critique, l'enseignement qui est dispensé. Vous voyez, c'est un processus vivant. Et là, aujourd'hui, il est désaffectivé. Je ne dirais pas qu'il est mort, mais il est réduit à sa plus stricte expression de transmission des connaissances.
Ouais, Pierre Mathieu, beaucoup de réactions dans le même sens sur l'application Inter. Je vais en lire quelques-unes. Olivier Braque, bonjour, ma fille est en troisième année à la Toulouse School of Economy. Ils sont environ 40 étudiants pour ces groupes réduits d'étudiants. Pourquoi ces groupes réduits d'étudiants ne peuvent-ils pas suivre normalement les classes? Quelle différence entre une classe de lycée et un groupe de 40 étudiants? Même chose, Marie, je suis étudiante en Master 2, droit de l'économie à Montpellier. Nous sommes une toute petite promo de 14. On a pris toutes les dispositions nécessaires, gel hydroalcoolique, masque, etc. Et on trouve ça injuste que nous ne puissions pas reprendre les cours alors que c'est notre dernière année, donc une des plus importantes. Pierre Mathieu.
Oui. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que en septembre et en octobre dernier, je pense que les grandes écoles et les universités avaient montré leur capacité à fonctionner en respectant les gestes barrières, le port du masque, le gel hydroalcoolique, etc., etc. On l'a fait pendant 2 mois sans qu'il y ait d'explosion du nombre de cas positifs dans nos établissements. Et puis effectivement, vous l'avez annoncé, il y a aussi un sentiment de, disons, d'une forme d'injustice des étudiants qui constatent que les lycées fonctionnent à peu près normalement, que dans les lycées il y a des classes prépa ou des BTS qui sont de l'enseignement supérieur et qui eux fonctionnent normalement. Donc voilà, il y a un sentiment d'injustice, plus effectivement le fait que ça dure très très longtemps et que voilà, si vous êtes pendant 15 jours, un mois, un cursus perturbé, ça peut aller, mais quand ça dure au-delà d'une forme de raisonnable, ça pèse sur l'ensemble de la communauté, aussi bien les élèves, les profs, les personnels administratifs, puisqu'on a l'impression de tout le monde a l'impression de rater son année. Je parle même pas des élèves qui devaient passer une année à l'étranger qui n'ont pas pu partir, les élèves qui devaient partir en stage et qui ont des stages qui sont un petit peu tronquée. Donc voilà, je dirais que, alors après, il faut pas nier le fait qu'il y a une épidémie qui persiste, qui peut éventuellement repartir si la variante anglaise commence à se balader en France. Évidemment, on va pas nier toutes et tous ici présents, on va pas nier l'existence ou la réalité de ce virus, mais effectivement, je pense qu'on a apporté la preuve en début d'année de notre capacité à gérer tout à fait correctement une année qui évidemment est un peu dégradée, mais qui nous permettait de respecter à peu près 80% de présentiel, et donc finalement une vie étudiante à peu près correcte.
On repart au standard. Sylvie Maison-Alfort, bonjour, bienvenue.
Bonjour. Moi, je souhaitais aborder la notion d'une relative discrimination parmi les étudiants de France. En particulier, je remarque que les étudiants en CPGE, on maintient leur enseignement présentiel.
En classe préparatoire aux grandes écoles.
Oui, les classes préparatoires aux grandes écoles ont maintenu le présentiel pour leurs étudiants. Et je remarque aussi que de nombreuses filières d'enseignement supérieur privé ont maintenu elles aussi les enseignements en présentiel. Donc je m'interroge sur cette forme de discrimination et une autre forme de discrimination qui est une discrimination qui se peut positive mais qui peut s'avérer négative sur ces petits groupes de L1 constitués de 10 étudiants signalés comme fragiles, et je m'interroge sur le fait d'être signalé comme fragile. Est-ce que c'est pour une question médicale, auquel cas il y a transgression du secret médical ou transgression du secret professionnel, parce qu'en termes pédagogiques, il a été repéré comme fragile. C'est une discrimination positive, soit, mais qui sur un cursus peut s'avérer quand même problématique. Et puis, c'est un droit de l'étudiant comme tout le monde. Donc voilà, je vais m'interroger.
Deux questions très précises et très denses en même temps. Merci Sylvie. Premiers éléments de réponse avec Manuel Tounion de Lara.
Écoutez, sur la première question, on a interpellé le Premier ministre là-dessus, parce qu'effectivement, il y avait une discrimination entre du présentiel et du distanciel pour les mêmes étudiants. Ce n'est pas simplement les étudiants de classe prépa, vous avez des étudiants de BTS dans les lycées, on a même des licences professionnelles dans les lycées. Les uns étaient en présentiel dans le lycée et les autres
à la fac.
Voilà, donc ça,
réponse,
on a interpellé les
vous
autorités.
Vous avez interpellé, réponse.
Absolument.
Réponse.
Alors, aujourd'hui, reprise plus avancée des universités, du présentiel, mais suspendu à la situation épidémique. Donc on en reste là et on va voir qu'est-ce qui se passe avec les lycées. La deuxième question, qui est celle de la discrimination, alors oui, d'une manière beaucoup plus générale, c'est des inégalités sur les revenus, des inégalités sur le milieu familial, comme ça a été dit, c'est-à-dire la capacité de l'environnement familial à prendre en charge, des inégalités sur les fractures numériques, effectivement un certain nombre de fragilités. Alors la notion de fragilité, elle est très large. Ça peut être un étudiant étranger qui est tout seul dans une cité universitaire, ça peut être un étudiant qui a un handicap et ça peut être un étudiant qui a contacté le service universitaire parce qu'il était en détresse. On essaie de s'adapter à ces différentes situations.
Et sur les étudiants ciblés fragiles qui ont eu la possibilité de faire une petite rentrée en début de semaine, rupture du secret médical, disait notre auditrice, que pouvez-vous lui répondre, Dominique Manchablon ?
Je pense qu'il est essentiel d'identifier les sous-groupes à risque et des personnalités à risque. Et dans les sous-groupes à risque, je dirais très grossièrement, les étudiants les plus en difficulté sont les primo-arrivants. Primo-arrivants de l'enseignement secondaire avec une terminale qui a été amputée, un bac qui n'a pas été fait dans les conditions habituelles et des jeunes qui se sentent illégitimes. Les primo-arrivants, ces étudiants internationaux, on ne parle pas assez de ceux-là, qui ont été très très fragilisés par la crise sanitaire loin de leur base familiale. Et autres sous-groupes, ceux qui sortent et qui arrivent dans le milieu du travail actuellement et qui anticipent sur une crise économique, notamment dans les filières entières pour des élèves ingénieurs, filière aéronautique, filière automobile, et puis pour les autres, et filière culturelle, pour nous retenir. Donc, je crois qu'il est important de sortir de cette crainte de la stigmatisation pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, quels étudiants sont particulièrement à risque et particulièrement donc à soutenir. Je rappelle quand même que 75% des troubles psychiatriques ultérieurs vont se révéler sur cette tranche d'âge entre 16 et 25 ans.
Ouais. Donc, c'est les plus fragiles, hein, clairement.
Voilà. Clairement.
Clairement. Deux réactions, remarques, questions, on va dire, dissonantes un petit peu sur l'application France Inter. Yann Girard, pourquoi ne pas parler de la source de cette situation? Combien de clusters dans les universités avant fermeture? Et Lucas, plus clairement, on rappelle les fêtes étudiantes en septembre?
Emmanuel Hadj. sur ce dernier point.
Pour les fêtes étudiantes, moi je trouve ça assez hypocrite de la part de tout le monde de dire que la propagation du virus aujourd'hui, elle est uniquement due de la part des jeunes en fait en France. C'est pas le cas. Je pense que on peut revenir sur la phrase de Macron, aujourd'hui avoir 20 ans en France en 2020, c'est dur. C'est pas vrai que ce soit la totalité des étudiants et des jeunes aujourd'hui qui vont faire des fêtes clandestines à travers la France. Aujourd'hui, moi, c'est pas mon cas et je sais que c'est pas le cas non plus de mes amis. On va pas faire des fêtes dans des caves ou je ne sais où pour profiter de notre vie. Aujourd'hui, on est juste en galère, on passe nos journées en cours en ligne, on fait des week-ends à faire des apéros Skype où c'est juste notre seule ressource et notre seul moyen de décompresser, etc. Et tout simplement, il y a une médiatisation certes de ce qui s'est passé, et c'est grave justement toutes les fêtes qu'il y a pu avoir clandestinement, mais aujourd'hui c'est pas une généralité de l'ensemble des jeunes.
Rapidement, monsieur le président de la CPU.
Moins de clusters dans les universités que dans les entreprises ou ailleurs. Aujourd'hui, les autorités sanitaires, la crainte, c'est le retour des fêtes familiales, pas celui du retour des cours à l'université.
Dernière question, très rapidement, 30 secondes chacun. Pensez-vous que la génération Covid sera une génération sacrifiée ou au fond, cette jeunesse va s'adapter, va rebondir? Comment voyez-vous l'avenir proche? 10 secondes chacun. Allez-y.
Dominique Monchablon.
Moi, je reste très optimiste. Les étudiants ont de très fortes capacités d'adaptation, une forte vitalité, une intelligence des situations parce qu'ils peuvent les modéliser. Ils sont, je dirais, en alliance avec la science et ils vont trouver des capacités de créativité, même de symbolisation de cette crise.
Génération sacrifiée, Pierre Mathieu, rapidement.
Non, je pense qu'il y a de la résilience. Je pense que si on arrive à reprendre dans des conditions acceptables dans les 3 semaines ou le mois qui vient et qu'on va jusqu'à la fin de l'année à peu près normalement, je pense que on devrait, les élèves et tout le monde devrait à peu près s'en sortir. Voilà, j'espère.
Monsieur le président de la conférence.
Je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs, mais tirons les leçons. Les étudiants, ce sont les journalistes de demain, les gouvernants de demain, les cadres de demain. Donc, il faut faire beaucoup plus attention à la génération, à la formation, aux étudiants et à l'enseignement supérieur dans le pays.
Et vous, Emmanuel Hadj?
Assez d'accord avec tout ce qui a pu être dit aussi. Et je pense que oui, là, on est une génération qui a été sacrifiée au niveau du Covid, mais qu'on est aussi capable de pouvoir rebondir et essayer de faire en sorte que la société de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui.
Eh bien, merci. Et grâce à vous, merci à tous les quatre, Iman Wellage, Dominique Monchablon, Pierre Mathieu qui était dans les studios de France Bleu Nord à Lille et Manuel Tounion Delara, le nouveau président. Vous avez progressé, vous avez vu, en présentiel sur 20 minutes.
Il faut me réinviter.
Ce sera le cas.
France Inter.